Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans le supplément SmackDown de Catch-Up, votre émission qui résume et analyse chaque semaine le show bleu de la WWE SmackDown Live. Je suis Irem et je suis accompagné, comme toujours, de l'ami Giscal. Salut Giscal.
Comme toujours, je sais pas, hein. Salut Irem.
J'aurais dû plutôt salut dire, effectivement, il est de retour pour nous jouer un mauvais tour, l'ami Giscal.
Salut tout le monde.
Et je suis accompagné comme toujours de Ringside. Salut Ringside. Ouais.
Salut les amis, ça va bien ?
Mais ça va, ça va.
Ça va.
Et cool.
Bon, c'est on... SmackDown.
C'est ouais. SmackDown, on voit là. Coussi-coussa, on fait comme on peut.
Coussi-coussa.
Bon, allez, on va parler dans cet épisode de WWE SmackDown Live. AJ Styles fait des blagues que personne ne comprend. Bobby Roode parle dans le dos. Sami Zayn a l'air bien trop sympa. Charlotte répond à des questions que Ruby Riott n'a pas encore posées. Et Corey Graves sort de chez le coupe-tif. Vous avez vu la nouvelle coupe de Corey Graves?
J'ai pas fait gaffe, tiens.
Il s'est fait une petite grosse mèche. Bon, il a toujours sa grosse mèche. Et il s'est fait
il a toujours sa houppette, là.
Ouais, et puis une petite coloration, quoi. Il est blond.
Ah,
en fait,
d'accord,
maintenant.
Ok.
Bon, voilà.
Très bon goût.
Voilà, je suis pas le seul à aller chez le coiffeur, visiblement. Je suis le seul à ne pas aller chez le coiffeur, que soit qui est faible ou non. Bon, alors voilà, rien que pour m'emmerder, c'est évidemment un horripilant René Young qui ouvre le show. Elle annonce l'arrivée de AJ Styles. AJ Styles explique qu'il a son futur entre ses mains, malgré les quatre loups hein, qui vont tenter de lui choper sa ceinture. N'oublions pas que c'est un Fatal Five Way qui nous attend à Fastlane. Il explique que grosso modo, en un contre un, il se fait tout le monde, mais c'est vrai que ça va être un peu plus compliqué. Dans le contexte avec cette stipulation spéciale, parce qu'il là, il commence à nous expliquer, hein, il fait une petite mise en scène, un peu comme quand on répète hein, au théâtre. Alors il utilise un petit peu, enfin il pousse toi de là, René, toi, il la pousse à chaque fois, il l'entraîne par-ci, il l'entraîne par-là. Il dit bah voilà, je vais passer Kevin Owens là à travers la table, et pendant ce temps-là, l'autre, là, Dolph Ziggler, il va venir faire le tomber dans mon dos, puis après il descend. Il va vers les escaliers et puis il dit bah là je vais éclater Sami Zayn dans les escaliers et pendant ce temps-là Dolph Ziggler va me faire la même, il va faire le tomber dans mon dos. Alors il commence à dire bah voilà effectivement Kevin Owens, Sami Zayn, Dolph Ziggler ils sont forts, voilà il commence à pousser un petit peu tout le monde et quand on pense qu'il va commencer à parler du Baron, il n'avait pas encore vraiment parlé du Baron à ce moment-là, la musique du Baron retentit et il débarque. Il rappelle que la dernière fois que leurs chemins se sont croisés, il a disposé de AJ Styles pour le titre US. Je vous avoue, je me souvenais même plus qu'il l'avait pris à AJ Styles, le titre US. Il y a tellement de détenteurs du titre US, entre-temps, dont le célèbre Vacant, hein, qui a eu le titre US pendant quelques semaines.
Balèze, bien.
Ah, il est très fort, ce monsieur Vacant.
Plusieurs règnes, hein.
Ouais, plusieurs règnes à son actif, puis
tous les
ceintures,
titres,
tous les titres.
Ouais. Mm. Triple Crown, Grand Slam Champion.
Probablement le premier, effectivement, à être Grand Slam Champion. Il dit, voilà, moi, t'as beau être un athlète, moi, je suis un bagarreur, je tabasse des petits dans les couloirs. Je suis pas un bolos. Kevin Owens, donc, il débarque, il balance sur les deux. Il se moque un peu du Baron hein, qui l'a maltraité la semaine dernière. Il rappelle d'ailleurs qu'il est là grâce à la vendetta impersonnelle de Shane McMahon. On revient évidemment à Shane McMahon, hein, c'est l'obsession du moment. Le Baron il se défend, il dit qu'il l'a étendu pour le compte de 3 la semaine dernière. Et puis à force de parler de Shane par-ci, Shane par-là, qu'est-ce qui se passe quand on invoque 3 fois le nom de Shane? Qu'est-ce qui se passe?
Il apparaît,
un Shane McMahon apparaît sous le titre en trop. Alors, il se moque un peu de la paranoïa conspirationniste de Kevin Owens. Il me fait bien marrer parce que, bon, on peut pas dire que Shane McMahon soit pas obsédé par Kevin Owens en ce moment. Et puis, bah, qu'est-ce qu'il fait? Il nous boucle la soirée avec 2 matchs. On aura donc Kevin Owens contre Sami Zayn, Dolph Ziggler, pardon, et AJ Styles contre... Le baron, le fameux baron, donc
main event,
la belle. Alors, je vous ai parlé dans le menu que Jessal avait fait des blagues que personne ne comprenait parce qu'effectivement, à un moment donné, Jessal il s'est retrouvé au micro pour probablement quelque chose qui n'était pas sa plus belle prestation. Et à un moment, il a fait une vanne. Et Kevin Owens, il a rien compris, personne n'a rien compris. Et Kevin Owens, il a répondu en faisant What? Qu'est-ce que tu viens de raconter? Bon, allez, place à notre invité. Alors, je sais plus du coup qui on peut considérer comme invité du supplément SmackDown. Giscal, notre invité du supplément
Si, si, on peut considérer que
Le
c'est moi
petit
l'invité.
nouveau,
Le
là.
petit
Ouais,
nouveau.
plutôt. Alors, après toutes ces semaines où on n'a pas eu ton avis, qu'est-ce que tu as pensé de cette intro, là?
Bah écoute, j'ai pas trouvé cette intro tip top moi perso. J'ai pas trouvé ça très funky. Et déjà, j'aimais pas trop le petit tour de ring de AJ Styles qui était en train de nous expliquer grosso modo comment il allait perdre dans 2 semaines parce que c'était un petit peu ça qu'il était en train de faire. Donc c'est bien le champion vaillant et tout, mais donc en fait là il est en train de nous dire bah voilà là si je fais ça bah je vais perdre, si je fais ça je vais perdre. Donc bon bah ça part pas très très bien. Donc ouais, ça donne pas trop, enfin ouais, ça donne pas trop la pêche, je trouve. C'était pas super l'angle à aborder, je trouve, par AJ Styles sur cette promo. Après, bon bah, l'arrivée de Kevin Owens, c'est la blague. Moi, j'ai pas compris la vanne non plus, donc je me souviendrai même plus d'ailleurs de ce que c'était la vanne, je sais plus. Donc bah, voilà. Après, bon, sinon c'était classique dans le sens où Shane vient nous booker 2 matchs et. C'est vrai qu'on a un peu l'impression que du coup Daniel Bryan a lâché les rênes de son show. C'est Shane McMahon là qui fait sa petite émission et donc qui nous a préparé 2 matchs dont on va parler après. Mais ouais, c'est plus l'angle utilisé par AJ Styles qui m'a pas trop j'ai pas trop compris en fait le sens de cette promo si ce n'est que bah voilà il va probablement perdre du coup.
Moi de Ringside, toi t'as compris le sens de la promo?
Ah oh ouais, moi je comprends toujours tout, hein. Il y a peu de zones d'ombre à la WWE. Un bon segment, une bonne promo qui débouche sur une belle affiche, moi j'aime beaucoup. Bon, c'est pas ce qu'on a eu ce soir, hein, malheureusement, c'était un peu plutôt tout l'inverse. AJ Styles, alors c'est une blague sur Sami Zayn qui était accroché au dos de Kevin Owens, il lui a dit ça va mieux
Ouais,
ton
mais il le
dos,
compare à
cette
quoi? Ouais.
puissance, je sais
Ouais,
pas,
d'accord.
un parasite. Enfin bref, c'était nul. D'ailleurs, tout était nul en fait. Aussi bien
Voilà, merci, au revoir.
la
C'était le
jouer.
supplément SmackDown.
Voilà.
Rendez-vous la semaine prochaine.
Ce qu'on leur a fait raconter, la prestation était pas terrible, c'était trop long. Au final, on a deux affiches qu'on a déjà vues 100 fois. Ça va démarrer vraiment mal, vraiment très mal le show cette semaine.
Ouais, AJ Styles, hein, qui était pas à son meilleur là en plus ce soir. Un
En
petit
plus,
peu transparent depuis qu'il a la ceinture entre les hanches là.
Ah bah
AJ
c'est
Styles.
pas ouais, c'est sûr que son règne n'est pas forcément au centre de toutes les attentions. Ouais.
C'est quand même. Enfin, le mec, il était tellement chaud bouillant avant toute sa période avant de récupérer la ceinture. Et là, tu lui mets la ceinture, je sais pas, c'est une espèce de ceinture de pas de chasteté, mais qui rend complètement stérile les mecs qui la portent. C'est
Bon,
un
après,
petit
faudra
peu.
remarquer, c'est vrai qu'il est toujours super over, quoi. Enfin, c'est vrai que où qu'il aille, avant qu'il prenne le micro, t'as toujours 30 bonnes secondes, voire 1 minute de AJ Styles dans les
Ah bah, il nous
gradins.
a
Donc
fait un
bon.
bain de foule là où il est monté. Enfin, pour le public, c'était génial. Hein. Il est monté sur le turnbuckle. Voilà, parce que
Oui,
les
il
chants
fait
montaient, etc.
rarement ça. Ouais,
Ouais, les
ouais.
chants étaient vraiment au top. Bah, la salle était assez chaude, j'ai trouvé.
Ouais,
Voilà.
Phoenix
Le public à
était
Phoenix, hein, toute la semaine là.
ouais.
Ils étaient bien, bien, bien. Du coup, bah, messieurs, on enchaîne avec le premier des deux matchs. Kevin Owens contre Dolph Ziggler. Un match qui part à 100 à l'heure. Dolph Ziggler, hein, qui a retrouvé une cinquième jeunesse, avec des gros enchaînements fabuleux, hein, des dives magnifiques, des contres magiques, et à la fin, la musique de Sami Zayn qui retentit et qui distrait Dolph Ziggler, qui se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas comment la musique d'un autre catcheur peut retentir lors d'un match, et il se fait décapiter, hein, méchamment par Kevin Owens. Pour la victoire, Kevin Owens est stupéfait. Hein. Il se demande bien à quel point il pourra compter sur Sami Zayn à Fastlane. Hein, pourquoi leur lien avait l'air un petit peu tendu entre les deux. Et d'ailleurs, il y a une petite séquence après backstage entre Kevin Owens et Sami Zayn, où Sami Zayn vient un petit peu le rassurer en lui disant, en lui partageant ses bonnes intentions, il a compris, hein, qu'il était là grâce à Kevin Owens, qui était bel et bien le fameux ange gardien, qui veille sur son ami. Alors à Fastlane, ils seront débarrassés des trois autres, il fera ce qui est bon, il s'allongera au centre du ring et Kevin Owens deviendra ce qu'il doit devenir, le champion WWE. Donc deux choses là, un gros match quand même entre Kevin Owens et Dolph Ziggler, j'ai trouvé. On va parler d'abord un petit peu de ce match-là. Ringside, qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que Dolph Ziggler a la patate, non? La pêche.
La pêche, ouais, ils ont fait un bon match après la, le, je crois la première coupure pub, ça a commencé vraiment à partir assez loin. On a eu un bel affrontement entre les deux. Par contre, moi j'ai un gros problème, c'est que j'ai plus du tout envie de voir Dolph Ziggler.
Oui,
qu'il a
pareil,
abandonné
ouais.
la ceinture et qu'il est revenu, qu'il n'y a rien eu derrière. J'ai de la hit envers Dolph Ziggler et de la mauvaise hit. Je ne l'aime plus. Un peu comme j'ai pu ressentir pour Randy Orton à une époque, ou peut-être Sheamus à une époque où vraiment il n'est pas pertinent dans le ring. Voilà, il a abandonné la ceinture US. Il revient comme ça, il a rien de spécial à faire. C'est son selling quand même qu'on a vu un milliard de fois. D'accord, il vend toujours très bien les coups, mais il fait pas grand chose de plus que ce qu'il a déjà fait. Il y a rien de bien nouveau dans son arsenal de coups. Clairement, je pense pas qu'il va gagner dimanche. Je pense pas qu'il y aura grand chose de prévu pour lui au WrestleMania. Donc, il est là vraiment pour combler le début de match, pour avoir une affiche un petit peu de haut niveau en entrée de show, mais clairement avec cette histoire autour de la ceinture US, je peux plus l'encadrer quoi, Dolph Ziggler, donc voilà,
ça
j'ai
contrarié.
Beaucoup de mal à rentrer dans le match. Voilà, je suis contrarié quand il arrive
et contrarié
c'est quand
quand
même bizarre
pas.
comme ressenti quand tu regardes le show, il est pas content quoi.
Ouais, moi j'ai eu du mal à rentrer dans le match, mais juste parce que en fait. Je m'en foutais un peu de ce match parce que il n'y a pas d'enjeu, c'est deux heels, donc en fait j'ai pas envie de voir gagner l'un ou l'autre, donc du coup je m'investis pas du tout émotionnellement dans le match. Le seul truc, c'est peut-être s'il y en a un que j'ai plus envie de voir perdre, c'est Kevin Owens, parce que lui c'est un bon heel qui est bien écrit, donc du coup j'ai plus envie de le voir perdre, donc forcément à la limite t'as la moitié de l'équation qui est bonne. Mais sauf que de l'autre côté, tu t'en fous de savoir si Dolph Ziggler va perdre ou gagner. Donc ça, moi, personnellement, ça n'a pas trop marché. Donc oui, il y avait des spots qui étaient très sympas. Le finish, j'ai beaucoup aimé. Le petit côté, c'est Sami Zayn qui vient sauver son pote. Et puis alors le super kick dans la nuque est dévastateur, là, ça j'aime bien. Et ça mérite un tombé, contrairement à... On s'était fait la réflexion... Quand est-ce que c'était en pay-per-view où il y avait eu justement ce même spot, un super kick dans la nuque qui pour moi est 10 000 fois plus dévastateur qu'un super kick pleine face, et on s'était dit c'est pas normal que tu finisses plus pas le match là-dessus. Je me souviens plus qu'est-ce que c'était comme match.
C'était soit un Rusev ou
je sais plus.
Ou un Nakamura.
Enfin bon bref. Du coup voilà, donc écoute, oui, le match est très bien exécuté, mais sauf que tu ressors de là Kevin Owens a gagné, ok. L'affiche de base était faussée parce que on s'en fout de Dolph Ziggler. Oui, en effet, il est rentré sous les criquets là avec sa musique. Alors en plus maintenant ils inversent le truc, ils font le record scratch là, le petit crissement de disque avant sa musique, ce qui est un peu stupide.
En fait, pendant ton absence, les mecs étaient un peu perdus. Ils se sont dit, ils ont testé plusieurs choses. Hein. D'abord on met la musique, puis après on la coupe, ou d'abord on la coupe et puis après on la met.
Je comprends pas trop le délire en fait.
C'est à l'image du booking du personnage.
C'est
quoi.
Débile. Parce que normalement, le record scratch, ça arrive quand tu coupes une musique ou quand tu coupes un son, pas avant de mettre un son.
c'est une nouvelle façon de mixer, ok. C'est comme ça, à Brooklyn, c'est comme ça qu'ils font.
Un truc un peu progressiste, chelou et tout. Okay. Enfin bref, voilà. Je suis presque pour les mêmes raisons que Ringside, mais. Ça m'intéresse.
Bon,
pas
et
trop,
le petit mind game là de Sami Zayn, Kevin Owens, qui était plutôt bien interprété hein, dans les backstage, dans les vestiaires, où il y a Sami Zayn qui vient le rassurer. Et clairement, Kevin Owens, attends, qu'est-ce qu'il est en train de me faire? Et c'est cool de voir Sami Zayn avoir le upper hand, comme on dit, enfin avoir
vraiment hand,
la main mise sur le mind game entre les deux. Et ça, c'était plutôt sympa. Là.
J'ai trouvé que c'était une évolution très sympa de leur histoire, où j'avais un peu peur que. Qu'ils nous précipitent la fin du duo, hein, parce que c'est vrai qu'ils nous les ont foutus en un contre un pour un title shot pour AJ Styles, puis après ils avaient des promos, ils se foutaient un petit peu sur la gueule, ils s'envoyaient des pics et tout, on avait l'impression que c'était fini. Et donc là, c'est un petit rebondissement qui, je trouve, est assez intéressant. Au final, puis c'est cohérent avec les deux personnages. C'est-à-dire que Kevin Owens, il peut pas tomber dans le panneau direct. C'est pas possible parce que
Il est l'inventeur de.
Oui, il est l'inventeur de ce genre d'enculerie, là.
C'est moi qui ai inventé l'enculade.
Ouais, ce truc-là, vraiment, c'est lui qui a tout fait. Donc, clairement, il voit le truc arriver à des kilomètres. Il se dit, attends, qu'est-ce qu'il est en train de me faire là? C'est moi qui fais ça normalement. Donc, je trouve ça pas mal du tout. Et je suis assez curieux. Voilà, c'est pour le coup, c'était la petite étoile, le petit point brillant là dans cette histoire, clairement pour moi.
Bon, bah ça, on est bien. De toute façon, on les reverra évidemment, hein, les deux affreux Jojo. On passe. À la ceinture US, Jinder Mahal a découvert quelque chose de choquant. Il vient nous l'annoncer. Pour le top 10, Bobby Roode a voté pour lui-même, le fiefé gredin. Eh ouais, alors que c'était interdit, non autorisé, pas bien. Et il a même pas voté pour Randy Orton en plus. Il se dit alors que Bobby Roode, la semaine dernière, nous disait qu'il vénérait Randy Orton, qu'il serait prêt à lui lécher des parties du corps. Ah non, c'est nous qui l'avions dit. Donc Bobby Roode est un gros menteur. C'est pas très glorieux, tout ça. Bobby Roode donc débarque, hein, il vient laver son honneur. Alors, avez-vous remarqué, qu'est-ce qui a changé là dans Bobby Roode à ce moment-là, quand il arrive? Il y a un truc qui a changé.
Il est en costard.
Il est en costard. Il est en costard. Ouais. Il n'est pas venu avec son putain de peignoir dégueulasse.
Il a la classe, hein, costard.
Mais oui, et là, je me suis dit, ouh, c'est pas mal, ça. Enfin, c'est pas mal. Ça peut pas être pire, hein, toi, mais... Voilà. Bon, peut-être que on va retrouver le Bobby Roode d'avant. Donc, il vient et il rappelle que Jinder, lui, est incapable d'être dans le moindre top 10. Et, Jinder tente de lui faire avouer, hein, qu'il a dit du mal de Randy Orton dans son dos. Et qu'il en a peur. Alors Bobby Roode fait non, moi j'ai rien dit sur Randy Orton, me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Bon, c'était.
Je suis pas du genre à chercher la bagarre.
Je suis pas du genre à chercher la bagarre, moi je dis pas du mal des gens, c'est pas vrai. Et puis tu sais, de toute façon, le seul dont j'ai peur, dont j'ai pas peur, c'est bien toi. Et là, après, Randy Orton les rejoint, il vient provoquer Bobby Roode. Un petit peu quoi, en lui disant, enfin en faisant des signes comme ça, tu parles dans mon dos, c'est pas bien, etc. Et évidemment, il frappe Jinder Mahal, et Bobby évite le RKO, il place son glorieux DDT, et il commence à célébrer, on a la musique glorieuse, je crois, qui s'enclenche, mais il se mange un calas, qui était pas mal, une espèce de calas out of nowhere.
Oui, pas mal du tout.
Et donc c'est Jinder donc qui termine victorieux de cette séquence. Ma question, c'est est-ce que Jinder Mahal avait une Minerve?
Comment?
On avait l'impression qu'il avait une Minerve, Jinder Mahal.
En tout cas, il doit déformer toutes ses chemises avec ses trapèzes atrophiés là.
Ça, c'est...
hypertrophiés plutôt.
Ils sont tout le temps contractés là comme ça. Ouais.
Bon, et là, est-ce que cette séquence, cette promo était hypertrophiée Ringside?
Oh, carrément, ouais. Oh là là. Du début à la fin. Moi, j'ai décroché en cours de route. Comment dire, la performance de Jinder Mahal, c'est vraiment. Je mets beaucoup de réserves là-dessus parce que c'est vraiment pas bon. Il a toujours
c'est
sa voix.
C'était pas le pire, hein. Moi, je trouve.
Ouais. C'était pas le pire, mais c'était pas loin. toujours son extinction de voix, là, continuelle. On lui a fait raconter n'importe quoi en plus avec cette histoire de top 10 list qui rime à rien du tout. C'est la même que la semaine dernière. On avait clairement dit qu'on pouvait pas voter pour soi-même ou qu'il nous sort le truc. On n'y arrive même pas à s'y intéresser, à essayer de savoir où il veut en venir. Bobby Roode qui débarque, qui reste sur la même ligne que la semaine dernière à dire oui, moi je respecte tout le monde, voilà, il y a peut-être éventuellement avec toi, peut-être qu'on peut avoir un affrontement. Puis Randy Orton qui vient pour finalement se faire botter le cul. Tout ça a été long, c'était pas intéressant. Zéro pointé moi pour moi sur cette séquence-là. Du début à la fin, j'ai rien à sauver, ouais. Je suis désolé.
Non, il n'y a pas grand-chose à sauver hein, sur cette séquence. Ça faisait vraiment... bataille de cours de récré, savoir genre les résultats, c'est des délégués de classe venaient de tomber, et t'as trois gamins qui s'engueulent, savoir t'as voté pour qui, nanana, C'est
Ça sent
vraiment.
l'histoire vécue, là, toutes ces années d'école qui remontent.
Ouais, je me souviens bien.
Tu t'es fait screw lors
Je me
des
suis fait
élections.
bien screw. Il y a un mec qui avait voté pour lui-même, c'était interdit, et voilà. Non, mais c'est un peu pourri. Même Randy Orton dans cette histoire passe un peu pour un débile parce que, genre, c'est évident, genre, c'est surjoué, c'est évident que c'est pas la liste de Bobby Roode, et donc, du coup, t'as Randy Orton qui arrive comme un gros cave, là, qui arrive, quoi, t'as dit du mal dans mon dos, enfoiré, je vais te défoncer. Mais c'est bon.
Garde ta gueule à la rentrée.
Donc, non, ouais, ça vole pas très haut, je sais pas, ouais, c'est. Si c'était juste la finalité de la top 10 list, c'était de faire une sorte de feu d'à-trois là pour le titre US. Et donc.
J'ai bien peur que ce soit ça.
Ouais, il doit pas y avoir grand-chose de plus derrière
Moi,
ce
je dirais
concept.
même, espérons que ça soit ça.
Voilà, on arrête là,
Ouais,
tant pis,
peut-être.
c'est mauvaise idée, on remballe. Triple threat pour la ceinture US, comme toutes les semaines, et puis voilà.
Voilà. Mais
Bon, voilà,
d'ailleurs,
une
non,
fois de
pas
plus.
triple threat.
Non, effectivement, puisqu'on a une séquence un peu plus tard qui vient confirmer ça. Merci, Giscal, pour cette
Pour moi, est une
transition.
horreur cette séquence. Ouais.
Une séquence, la
Bien.
seule, hein, où on voit Daniel Bryan avec Shane, il se chamaille encore et toujours sur le booking. T'as booké comme si sur les coups de l'émotion, alors que moi j'ai booké comme ça en réfléchissant bien. Patati patata, la chamaillerie se termine sur donc l'officialisation par Shane McMahon de Randy Orton versus Bobby Roode pour le titre US à Fastlane. Donc pas encore de Jinder Mahal dans l'histoire. Et c'est mon dernier mot, dit-il en un ton très autoritaire, hein, tel le directeur de la direction qu'il est. Et puis Daniel Bryan, un petit peu effacé, hein, voilà,
Ah
pas.
bah, qu'on a plus rien à foutre.
Ouais,
Voilà, c'est ça, la
il
tête
a pas
bien
l'air bien, hein,
retronée.
Daniel Bryan. Hein.
Qui lui dit, bah,
Non.
comme vous voulez, boss. Et puis qui part.
Ouais.
Qui part.
Mais moi, je trouvais que
Donc voilà.
perso, moi, je trouvais que ce segment, c'était grave parce que t'avais presque l'impression, en 30 secondes, qu'il jetait l'éponge sur toute l'histoire
Ouais.
qu'il raconte depuis 2 mois. Parce que,
C'est pas con
techniquement,
qu'on en arrive là.
C'est peut-être un détail pour certains, mais enfin,
C'est
c'était
peut-être un détail pour
pour moi,
vous, mais
c'était
pour
un segment qui
Giscal, ça veut dire beaucoup.
était.
Pardon.
Pour moi, c'était un segment qui était vachement important parce que quand on en avait parlé de l'histoire entre les deux, comme quoi Shane McMahon essayait de prendre un peu du recul et toujours d'essayer de faire bonne figure vis-à-vis de son GM, de jamais le dédire, de jamais. Parce qu'en fait, à chaque fois, il essayait, Shane McMahon, de rattraper un peu son histoire de vendetta personnelle en rajoutant des choses autour, mais jamais en contredisant officiellement son GM ou en annulant des décisions. Là, pour la première fois depuis qu'ils sont un peu en bisbille, il le contredit ouvertement. Et il refuse un match de Daniel Bryan pour le remplacer par le sien. Ce qui, du coup, d'un point de vue d'évolution normalement de leur histoire, est vachement important parce que là, il est vraiment en train de, genre
C'est la
de,
confrontation
ouais,
directe, quoi.
il est en confrontation directe et il est en train d'invalider une décision et donc de délégitimer son GM de sa fonction première, quoi. Donc,
Ouais, en
techniquement,
utilisant effectivement sa position de commissionnaire,
ouais.
ouais.
Et normalement, ça devrait être quelque chose qui est vachement important et c'est évacué complètement en mode Daniel Bryan, il faut. Ok, genre ok, vas-y, amuse-toi. Genre il n'était pas là dans le segment d'intro non plus, donc en fait Daniel Bryan n'a plus, il fait plus rien pour son émission, c'est plus son problème, donc il s'en fout. Donc ça fait vraiment genre bon bah en fait je sais pas si vraiment on va aller au bout de cette histoire parce que ouais.
Ce qui est dommage parce que, enfin, perso, j'ai trouvé que c'était une séquence qui était pas trop mal interprétée par rapport
Ah oui,
aux autres
c'était pas mal
séquences
interprété.
habituelles où tu sens vraiment qu'il récite un texte. Là, ils étaient plutôt, ils croyaient à ce qu'ils disaient, peut-être même un peu trop du coup. Peut-être que Daniel Bryan s'en fout tellement de cette storyline que quand il nous sort le oh bah comme vous voulez, boss, puis qu'il se casse,
Bah, c'est un
il
chien, ouais.
l'interprète très bien parce
Je trouve que ça
qu'il en a
transpirait,
vraiment rien à foutre.
ouais. Bah ouais,
Ouais.
non, abandon de ce qu'ils sont en train de faire. De toute façon, il peut pas y avoir de payoff puisqu'ils peuvent pas il peut pas y avoir de match. Donc je sais pas où ils veulent en venir de toute façon avec ça. Et on voit bien que ça tourne en rond et qu'il y aura peut-être rien du tout derrière en fait. Ça, on nous mène par le
En
bout du nez
fait, ouais.
pour rien du tout.
Cette histoire, qui est quand même une des plus longues storylines de l'époque post-moderne de la
Ah oui, ça dure
WWE,
depuis un moment, ouais.
ils ont un fusil avec 6 balles. Et je sais pas, à chaque fois qu'ils tirent une balle, c'est toujours au mauvais moment, quoi.
Ouais.
Là, comme tu l'as dit, là, effectivement, cette confrontation apparaît à un moment. Enfin, c'est
Ça
en termes de timing, c'est assez
devient
dégueulasse.
anecdotique, quoi. Genre.
Ouais. Donc effectivement, je crois qu'ils ont un peu perdu à la fois la motivation, l'envie et les idées pour faire progresser convenablement cette storyline. Et comme tu le dis, Ringside, le payoff, on ne sait pas ce que ça va être. Et peut-être qu'il n'y en aura pas. Ou... Enfin, il y en aura forcément un à un moment donné, mais
Ouais, mais qui du
peut-être.
coup sera peut-être pourri, ouais. On sait pas.
Qui sera... Non, mais qui sera forcément très loin des fantasmes
Ah
qu'ils ont nourris
oui.
eux-mêmes,
Ouais.
qui est le retour de Daniel Bryan entre les cordes, quoi. Là, si le payoff, c'est pas ça à la fin.
Il y a vraiment quasiment aucune chance que ce soit ça, hein, parce que ça va
Mais oui.
sûrement se terminer à WrestleMania, et quoi qu'il arrive, il pourra pas être comment clear de pour aller catcher Daniel Bryan à cette date-là. Hein. Donc,
Ouais, ou alors on nous cache des
ou
choses
alors
même.
on nous cache vraiment des choses, mais
Dans ce cas-là, on nous les cache bien, mais
on les
après
cache
on joue
bien.
mal, quoi. Bon, allez, messieurs, enchaînons avec... Ah, Giscale, ça t'a manqué. La division féminine de SmackDown. Dis-le. Ah, t'oses pas quoi, t'oses pas répondre.
Il a
Giscale.
vomi dans sa bouche.
Il a vomi dans sa... Ah, il a carrément quitté les studios. Le mec n'assume
Il
pas
s'est
du tout.
barré.
Bon, bah écoute, on va en parler juste toi et moi, puisqu'il n'y a que nous deux qui, visiblement, apportons un peu d'intérêt à cette division, plus que les bookers et les catcheuses elles-mêmes.
Je vous ai perdu.
Mais on t'entend en tout cas, on
Voilà.
t'entend de vous, on ne voit plus, mais on t'entend,
Je
donc voilà,
reviens.
on
Voilà,
parle.
voilà.
Ah, le voilà.
Ah, voilà. Donc, juste au moment où on parle de la division féminine,
Ah,
c'est
ma
bizarre.
préférée.
Ah, mais qu'est-ce qu'on disait?
Ma préférée.
Bon, mesdames et messieurs, après de longs mois d'abstinence, on a enfin eu quand même un match de filles qui était pas trop mal.
Ouais.
Qui était pas trop mal. Un 3v3 où les filles se sont bien, bien, bien défoulées, avec des belles prestations, notamment des rookies. Et une victoire finale du Riot Squad avec Ruby Riot qui fait le tomber sur Becky Lynch.
Ah oui, quand il y a besoin de s'étaler, ça, il n'y a rien de mieux que Becky Lynch, hein.
Ah, ça commence, attends, j'ai même pas résumé le match, je le ferai pas, parce que voilà, ça n'avait, c'était malgré tout un bon match, hein, avec, comme j'ai dit, les rookies qui ont pas mal brillé, eu l'occasion
Ouais.
de briller, enfin, surtout les deux sbires, plus que Ruby Riot d'ailleurs, à la fin on a donc ouais, Ruby Riot, non alors, c'est là où, il y a eu un petit, au niveau du montage, ils ont un petit peu merdé. On a eu une promo selfie, hein, les fameuses promos selfie avec le texte qui s'affiche ou
On
pas, je ne
peut
sais
plus.
plus, les trucs
Ouais,
dégueulasses qu'on n'en peut
dégueulasse,
plus,
hein.
où tout le monde a atteint d'un strabisme là en plus. Puis surtout, ils bougent en même temps, je sais pas, ils marchent, alors ça donne
La
le
ville de
match
la
de
gerle,
mer.
ouais.
C'est dégueulasse, arrêtez ça s'il vous plaît. Donc Charlotte qui accepte le défi du Ruby Riot, donc pour un match pour le titre, pour Fastlane. Et un peu plus tard, on a Ruby Riot qui lance un défi à Charlotte pour un match en un contre un pour le titre. Bon, gros lol, hein, le gros fail là, je pense que
Ils ont
c'est.
forcément inversé les promos, c'est pas
Ouais,
possible
on est
autrement.
d'accord, tout ça est inversé, hein,
C'est pas
donc.
possible sinon, c'est pas possible. Enfin, on peut pas être aussi con,
Tout
c'est pas
ça est.
possible.
Bon alors, est-ce que Giscale, là, après toutes ces semaines d'absence, tu reviens, tu retrouves la division féminine, elle est comment?
Bon, elle est comme je l'ai quittée, il n'y a pas trop de. C'est-à-dire que, bon, c'est moins grave si jamais on considère que. Qu'ils ont inversé les promos, je vois pas comment ça pourrait pas être le cas parce que, alors vraiment, le coup du ça fait quoi, les 2 mois que personne n'en a rien à foutre de la ceinture de Charlotte, à peu de choses près. Alors là, spontanément, elle, genre de son propre chef, elle dit oui, je mets ma ceinture en jeu, si c'est pour t'atteindre, je suis ok à mettre ma ceinture en jeu, blablabla, blablabla, ok, bon. Bon, ouais. Donc déjà, elle s'auto-book une sorte de match. Bon, Charlotte passe vraiment pour une grosse débile hein, dans l'histoire, parce que alors là, on lui accordait des matchs 1v1 semaine après semaine contre les membres du Riot Squad. Et alors là, soudainement, par l'opération du Saint-Esprit, il faut qu'elle mette absolument sa ceinture pour atteindre la leader du Riot Squad. Bon, je sais pas pourquoi.
Bah, c'est un peu là les filles à Charlotte, Naomi et Becky Lynch, c'est un peu les filles neuneux
Ouais, là.
de l'histoire quand même, en
Vraiment,
mode meilleure copine, à faire fuir les. Parce qu'à la fin, elles arrivent quand même à faire fuir le Riot
Ouais.
Squad malgré la
Bon,
défaite.
alors après, le match est pas mal, c'est vrai. Du coup, pendant des semaines, on nous dit, bon, bah, le Riot Squad, quand ils sont 1v1 contre la championne, ça marche pas. Mais par contre, quand elles sont 3v3, bah, là, tout de suite, elles gagnent. Je suis pas sûr qu'elles aient perdu un 3v3 déjà, ou je suis pas sûr. Mais bon. Peut-être, je sais pas.
Ce serait pas
Ce serait
impossible,
peut-être pas
hein.
impossible contre le Welcoming Committee ou un truc comme ça, c'est possible. Et donc, du coup, bon, donc oui, voilà, elles ont une dynamique à 3 qui fait qu'elles sont toujours balèzes. Mine de rien, c'est une belle victoire parce que c'est 3 anciennes championnes de SmackDown contre 3 rookies, donc il y a voilà, ce côté qui est pas mal. Mais je sais pas, moi ça m'enflamme pas perso. Hein, le côté la ceinture qui revient comme un cheveu sur la soupe là soudainement.
Ouais, bon, ça, on s'y attendait un
Ouais.
petit peu, quoi. Hein,
Cette
ça,
guerre
enfin, c'est que
des, je trouve
le.
que cette guerre des gangs, elle clique pas, là. Enfin, je sais pas, ça colle pas. Je sais pas.
Ça manque de guerre, ça manque de gang.
C'est ça, il manque un peu de tout dans cette histoire.
Ouais, ça manque de tout. Ça manque de charisme, c'est rien. Ouais.
Ouais, t'avais dit, donc, elles perdent quand elles sont seules face à Charlotte, bah, encore heureux, hein, parce que il
Oui, bah oui.
manquerait plus que les rookies qui viennent de débarquer d'NXT. Et encore, je crois
Ouais.
que Ruby Riot a une victoire clean sur Charlotte.
Ah bon?
Sur un match où la ceinture n'était pas en jeu. En tout cas, il n'y a rien qui a été depuis le début, à part peut-être la première fois où elles sont arrivées, la première opération coup de poing qu'elles ont faite dans les vestiaires.
Ouais.
Ça avait plutôt bien fonctionné. Après, ça a été que des actes manqués, l'apparition du Riot Squad. Le match était bon, par contre. Il y a un peu tout le monde qui a brillé, même Naomi. La foule était vraiment bien dans le match. Donc on voit qu'il y a du talent, on voit qu'il y a de quoi faire, mais pas avec cette storyline là. Et ben on va se retrouver avec un match, je pense, assez fade à Fastlane, parce que je pense pas qu'on ait très envie de voir un Ruby Riot contre Charlotte. Il va falloir que en plus que ce soit, j'ai envie de dire torché vite fait bien fait. J'ai pas envie de voir une heat de Ruby Riot assez longue sur Charlotte, ça m'intéresse pas. Il faut réimposer Charlotte comme une vraie championne. Et puis, je veux dire, c'est si compliqué que ça que de faire une rivalité entre Charlotte et Becky Lynch. C'est ça que les gens ont envie de voir, pas
Apparemment, c'est très compliqué, ouais.
le Riot Squad. Tant pis, tout le monde s'en fout. Ça arrive, hein, qu'ils fassent débarquer des
Ouais.
gens et que ça fonctionne pas, puis qu'on les remette tout de suite au placard. Je vois pas pourquoi ils font pas ce traitement-là sur cette faction-là qui fonctionne pas de toute façon. Même si elles ont visiblement beaucoup de talent, un peu toutes les trois, mais ça, toute cette histoire fonctionne pas. Ça fait des semaines que ça fonctionne pas. Partons sur autre chose. On arrive dans la route vers WrestleMania, donc il est temps de nous créer un truc un peu avec du star power. Et puis voilà, on a Becky Lynch, on a Charlotte. Pourquoi s'emmerder à faire autre chose que ça, quoi?
Oui, je sais pas pourquoi, moi.
C'est une question qui restera sans réponse. Allez, on va aller dans l'autre division, la division tag team, avec ce soir ni plus ni moins qu'un match pour être first contender entre le New Day et Benjamin et Gable. Pas de Bludgeon Brothers à l'horizon. En tout cas pour ce match-là. Et évidemment, une fois de plus, on en parlait la semaine dernière, les American Alpha 2 qui se font encore flouer par l'arbitrage. C'est ça d'être heel en ce moment à la
Ouais,
WWE, tu es
SmackDown surtout,
victime,
ouais.
victime du système. Bon, voilà un match qui avait. Voilà, on l'a déjà vu plusieurs fois ce match-là. Et c'est Xavier Woods à la fin qui fait le tomber, il me semble. Voilà, Benjamin Gable qui se sont encore fait avoir. Donc, on a les New Day qui retournent à la chasse au titre, alors que la rivalité des New Day Usos s'était probablement terminée de la meilleure des façons possibles. Et on remet sur le banc une autre tag team qui sont des heels qui se font flouer par le système. Qu'est-ce qui se passe? Je parlerai des Bludgeon Brothers juste après.
Ouais, je
Si
comprends
tu
pas.
veux qu'on en parle maintenant.
On peut tout grouper, je sais pas, mais
Allez, allez, les Bludgeon Brothers, surtout que ça s'est enchaîné, hein. New
Oui.
Day repartent sur la rampe et ils croisent les Bludgeon Brothers à la manière des Uso la semaine dernière. Luke Harper retient Eric Rowan d'aller casser la gueule aux trois zigotos. Après, ils font un squash contre les locaux, les catcheurs locaux. un beau petit squash bien sympa où il s'utilise comme arme, où non, Luke Harper, à un moment, est utilisé comme arme pour faire voilà, un move à l'extérieur du ring. Et puis ça se termine assez rapidement pour le squash. Voilà la division tag team. Donc ma question, ou en tout cas l'état des choses telle qu'elle est là pour ce first contender est un peu étrange quand même, Ringside.
Ouais. En plus, j'avais pas compris que c'était pour la place de first contender, moi, ce match entre les Usos et les
Non, mais c'était pas facile à comprendre.
Et les American Alpha 2.0. Donc c'est encore pire que ce que je croyais. Donc voilà, on va se retrouver avec le New Day contre les Usos. À Fastlane, ok, sauf si il y a des changements entre-temps.
Pas
Ouais.
impossible.
Alors, j'avais parlé de Rousseff qui se mettait over tout seul.
Ah.
Ça avait lancé un petit scandale sur le forum, hein, parce que on a interprété ça comme si je disais que c'est lui qui gérait ses promos, etc., etc.
Le Rousseff
Voilà, le
Gate.
Rusev Gate. On a un peu le même problème avec Chad Gable. Vous voyez, il est très populaire et là clairement il se fait flouer. C'est censé être un heel, mais finalement c'est peut-être un des plus beaux babyface de la compagnie. Donc j'ai bien compris que c'est pas un babyface vraiment, hein, mais on peut
Vraiment, non.
l'assimiler du fait de ce qui lui arrive, vu que normalement quelqu'un qui se fait fouer comme ça dans un match, c'est le babyface, c'est pas le heel. Le public est vraiment derrière Chad Gable. On se retrouve avec la même chose, c'est-à-dire que je pense qu'ils vont être mis au placard un petit peu les American Alpha pendant un petit moment, le temps que la sauce Chad Gable retombe. Et entre-temps, on va se retrouver un énième affrontement entre New Day et les Usos. Puis après, j'espère quand même qu'on placera au Blue John Brothers, qui fonctionne aussi plutôt bien. Donc voilà, tout est fait à l'envers. C'est que c'est pas intéressant. On nous resserre des trucs réchauffés, mais comme on a du talent, on a des bons matchs. Et puis on aura sûrement, ce sera sûrement bien l'affrontement New Day Usos, mais
Ouais, on a
on a
déjà
pu
vu
revoir
quoi.
ça, quoi.
Ah, on n'est pas à l'abri que les Blue John Brothers viennent casser les genoux du New Day
Voilà, on espère.
d'ici Fastlane, hein.
Ouais,
On espère,
bizarre,
mais c'est
bizarre.
difficile de casser les genoux du New Day vu qu'ils sont trois contre deux. Hein?
Tricheur.
Ça fait six
Six
genoux, six genoux que
genoux
tu
à
peux casser.
casser. Ouais, bizarre, bizarre tout ça. Ouais. Déjà, ouais, alors, premier truc, c'est que si jamais j'avais pas relu la preview de SmackDown qui précisait que. Entre la semaine dernière et cette semaine, ils avaient annoncé sur Twitter que le match serait pour, parce que c'est toujours mieux d'annoncer sur Twitter, hein, de toute façon c'est plus sympa, que ce serait un match pour les first contenders du titre. Franchement, rien dans la mise en scène et dans l'intensité du match et tout te donnait. Alors, j'ai peut-être pas été très attentif aux commentateurs, hein, peut-être qu'ils l'ont dit, j'ai pas fait gaffe, mais en tout cas rien ne donnait le sentiment en effet d'avoir un match de first contender avec des gars qui s'envoient tout ce qu'ils ont. Pour aller chercher les ceintures. Donc ça, c'est déjà le premier point. Et puis c'est vrai qu'après, quand tu sais ça, bah tu comprends pas en fait, parce que bon bah oui, New Day c'est une super équipe, Uso New Day c'est top, mais bon bah on en a mangé quand même toute l'année dernière, donc c'est pas mal. Et puis bah on risque, enfin oui, on risque d'avoir quoi qu'il arrive, même si ça va être encore un bon match, de tourner un petit peu en rond au niveau de la scène tag team et d'avoir du mal à vraiment faire monter des équipes dans l'inconscient collectif plus haut que ce sorte de petit plafond qu'il y a sous New Day et les Usos, parce que en plus là, c'est en termes de timing, c'était pas mal parce que Fastlane c'est un petit pay-per-view de transition avant WrestleMania. Donc c'est l'occasion, mais idéale de faire un New Day, de faire un Uso, Gable et Benjamin. C'est vraiment l'occasion parfaite avant de lancer la grosse machinerie WrestleMania et d'envoyer du lourd et une grosse feud et tout machin. Donc tu comprends pas pourquoi est-ce que pour Fastlane ils prennent cette direction-là. Donc maintenant le seul truc, c'est le Factor X, Blood John Brothers là, de savoir qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'ils vont s'immiscer là-dedans. Le regard là de Rowan sur le New Day avant qu'il rentre, moi j'ai bien aimé là, je trouvais ça sympa.
Alors, ils ont fait la même avec les Ouzo la semaine dernière.
Et puis ils ont fait la même, donc tu sens qu'ils commencent à, ils sont là, tu vois, ils sont dans le coin, ils commencent à faire ressentir leur présence. Moi j'aime, je trouve que c'est pas mal ce qu'ils font. Bon, ils ont pas réinventé la roue, hein, la WWE, hein, les coups des gros heels, Monster Heels qui squash, qui squash, qui squash et qui petit à petit qui arrivent et qui ont un gros match. Bon, ça va, hein, c'est de l'éculé, c'est du classique, mais je trouve que c'est pas trop mal fait avec les Belgian Brothers. Ils ont eu des bons squash, enfin, vraiment de quoi bien ancrer dans l'esprit de tout le monde que c'est quand même des grosses brutasses. Enfin, moi, je trouve qu'ils ont un moveset qui est méga impactant, super impressionnant et tout, qui est vraiment top. Et puis après, le fait que, tu sais, ils ont eu cette atmosphère de leur entrée, je trouve que ça marche pas trop mal, tu sais, genre... Il y a un petit côté, la menace qui pèse à chaque fois là quand ils rentrent. Voilà, ils ont planté une petite graine qui est pas si mal. C'est pas de la gimmick main event matériel, hein, c'est très vintage. Hein, on avait pu en discuter avec Ringside, hein, c'est ultra old school comme type de monstering. Mais c'est assez rafraîchissant parce que ça fait un petit moment qu'on en a pas vu des comme ça. Et puis voilà, je trouve qu'ils ont fait plutôt du bon boulot. Donc j'ai hâte de les voir dans un match très sérieux. Ça, c'est le point positif. Bon, après, le reste, je comprends pas trop. Ouais, pareil.
J'ai un peu de mal avec leur démarrage de match en double dropkick par les Belgian Brothers. Avoir deux gros mastodontes comme ça, commencer par un double dropkick, ça me perturbe un peu. Mais,
ouais, je sais pas.
Mais sinon, bon...
Il est tout chamboulé, notre
match. Ah oui, c'est bizarre, quand même. Mais,
c'est vrai que c'est un peu chelou.
Les squash sont toujours efficaces, ça fonctionne, leur gimmick, etc. Effectivement.
Ah, j'adore qu'ils s'utilisent comme arme, quoi.
Ouais,
ça, c'est vraiment
drôle.
Super. C'est deux Golgoths et il y en a un qui soulève l'autre qui en prend un pour taper l'autre. C'est divertissant. À voir, hein, Fastlane. Moi, je pense qu'ils vont aller quand même un petit peu perturber, parasiter cette affiche un peu trop vue entre les Ouzo et New Day.
Ouais, c'est quand même bizarre tout ça.
Après, est-ce que ça va être avant, pendant ou après? Ça. Seul l'avenir nous le dira, c'est l'heure du main event. Mmh. Juste avant, histoire de parler un petit peu de Nakamura qui ne daigne même plus de venir. Il y a eu un gros package vidéo. Hein,
Des gros absents.
Faut pas qu'on l'oublie.
Ouais.
Ouais, ouais, faut pas qu'on l'oublie, Nakamura. C'est dommage parce qu'ils avaient lancé un petit truc sympa pour un petit peu l'occuper sans trop le cramer. Où il stalkait un petit peu. Il stalkait
ouais,
le stage
cool,
dans
ça.
Les couloirs.
Ça prend pas beaucoup de temps en plus de faire ça. Mmh.
Voilà, donc ils auraient pu en faire une petite dizaine avant qu'ils partent je ne sais où là en vacances ou je sais pas où il est. Il est parti faire du surf,
sûrement, hein,
comme toujours. Mmh. Ils auraient pu en faire une petite dizaine d'avance comme ça nous aurait occupé. Mais non, pas de Nakamura. Par contre, AJ Styles lui est bel et bien là et ce soir donc il affronte le Baron hein, qui l'avait battu à deux reprises. Donc du coup ce soir c'est la belle AJ hein, qui se mange à un moment donné un deep 12. J'ai noté tellement
ouais.
Il était assez énorme ce deep 6 là, du Baron. On revient, on en a parlé la semaine dernière, les gros moves du Baron, des moves faits pour un face. Le end of day, justement, il est contré en calf crusher. Et là, le Baron écrabouille la tête de Edge Styles. C'était beau, hein, c'était beau cette boîte crânienne écrasée sur le ring. Mmh. Et après, le Baron, un peu plus tard, étrangle Edge Styles, qui est de l'autre côté des cordes. Il le tient comme ça, il l'étrangle, il hurle, tu peux pas me battre, évidemment, hein. you talk too much, il se mange le phénoménal forearm victorieux, victoire donc du champion, et les Canadiens débarquent pour tabasser le AJ Styles, et le Baron revient à son tour, distribution de End of Days, donc c'est bien le Baron qui termine le show avec sa musique, il repart un petit peu en boitant. Croisons les doigts, soit c'est du super selling du Baron, parce qu'il s'est pris le calf crusher pendant quelques secondes, j'espère. Dans ce cas-là, je lui tire mon chapeau, parce que je suis vraiment à dire, oh putain, est-ce qu'il s'est pété les croisés, ce
non.
con
Les croisés.
Non.
Direct.
Direct, bah, j'en sais rien, bon, on sait jamais, tout peut arriver. Comment il s'appelle, Sami Zayn, c'est bien déboîté l'épaule en faisant ouh avant d'entrer sur
oui,
le ring.
Oui, tu me diras, tout peut arriver. Ouais.
Ça a l'air d'être des gros fragiles à la WWE, hein, donc... Bon, Giscal, qu'est-ce que tu as pensé là de ce main event hein
Bon.
On avait quand même les 4 sur 5 là qui étaient
ouais.
là.
Ouais, c'était pas la folie quand même ce match. Hein. Techniquement parlant, j'ai pas trouvé que c'était le meilleur match du Baron. AJ Styles.
Pourtant, ils se connaissent.
Ouais, AJ Styles a fait tous les efforts du monde, encore au niveau selling et tout, pour faire apparaître. Les coups d'avant-bras et les droites du Baron comme des missiles nucléaires air-sol là, enfin c'est vrai que c'est à chaque fois c'est terrible, mais malgré
un ancien champion de boxe,
ouais. Mais malgré ça, ça restait un petit peu léger. Moi, je trouve qu'ils sont un peu restés en surface par rapport à ce qui même ce que AJ Styles sait faire et le Baron qui est capable de faire mieux que ça quand même, je trouve, en un contre un, même si c'est pas,
tu peux mieux faire, Baron.
C'est pas son format de prédilection. On sait que voilà, il a en tout cas, il a prouvé par le passé qu'il était beaucoup plus à l'aise en powerhouse dans des matchs à plusieurs que vraiment dans du un contre un classico-classique face à un face en péril. Il n'a pas des périodes de hit qui sont fantastiques, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais le highlight du match pour moi, c'était AJ Styles, phénoménal là, quand il se fait balancer par-dessus la table des commentateurs et qui revient à la vitesse de l'éclair. Ça, c'est incroyable. Par contre, alors, surprenant, je ne sais pas si vous avez... Enfin, moi, ça m'a fait vraiment tiquer, mais donc, il revient à la vitesse de l'éclair là après ça et il cale un phénoménal forearm quand même. Et le Baron kick out à 1. Enfin, genre, il kick out super vite. Et j'ai pas trop compris parce que, enfin, moi, j'ai pas souvenir qu'on ait, à part dans des, genre John Cena ou un truc comme ça, qu'il y ait eu des kick out de phénoménal forearm comme ça.
Ouais, ils ont essayé de sauver le truc au commentaire en disant peut-être qu'il l'avait mal placé, etc., ouais, etc., qu'il n'avait pas pris plein fouet, mais je pense que c'est plutôt une bourde de.
Bah ouais, parce que alors déjà le Baron se relève ultra facilement, mais enfin, bref, ça m'a un peu fait bugger, donc ça m'a
je pense ils sont plantés non pas sur genre le relevé, parce que tu te relèves pas, t'es Baron Corbin, tu te relèves pas d'un phénoménal forearm clean. Je pense que il devait être placé différemment
En tout cas, ça, ouais, bon, donc ça m'a, c'est dommage parce que
c'est pas son finisher AJ Styles dans le feu de l'action. Il s'est peut-être dit, tiens, je vais rentrer dans le ring comme ça, et puis il a oublié que c'était son finish en fait.
Moi, du coup, ça m'a.
Ou elle était pressée de rentrer à la maison.
Ça m'a un tout petit peu sorti du match parce que j'ai pas trop compris. Et puis bon, bah après, voilà, le finish, bah du coup, il recale un phénomène à la forearm qui, cette fois, est fatal. Bon, voilà. Après, bon bah, écoute, tout le bordel, on a eu un petit peu tout le monde. On book un beau petit foutoir là pour cette ceinture. Malheureusement, je trouve pas. En fait, le seul truc qui est vraiment intéressant dans cette histoire, c'est la relation Zayn Owens. Et le reste passe un petit peu au second plan. Et c'est vrai qu'on a un peu l'impression que on joue, je sais pas, au Rubik's Cube là jusqu'à au pay-per-view et qu'on va on va faire des permutations, des combinaisons différentes jusqu'au pay-per-view et au final il n'y a pas vraiment de vraie intensité qui se crée autre que la vraie histoire qu'il y a entre les deux Canadiens. Donc un peu, ouais, un petit peu déçu quand même de ce main event, moi perso.
Ouais, moi j'ai bien aimé la performance d'AJ Styles. Le Baron, bon, ça fait un moment que ça évolue plus trop au niveau de son style. Il a vraiment effectivement une période de domination qui est pas très intéressante quand c'est lui qui tient le match en main. J'ai pas aimé la séquence finale là où le Baron essaie d'étrangler AJ Styles là, à travers les cordes en lui disant tu peux pas me battre. Ça, j'ai trouvé que c'était pas terrible.
Trop dramatique là.
Ouais, puis un peu hors de propos là. Je sais pas pourquoi il fait ça. Il est pas en train de faire une prise qui va lui faire gagner le match, quoi. Il est en train de l'estrangler à travers les cordes, c'est n'importe quoi. Mais sinon, bon, AJ Styles, c'est AJ Styles, quoi. Il y a pas tortillé. En plus, le Baron, alors la semaine dernière, il était plutôt face. Cette semaine, il est heel. Les alignements comme ça qui changent de semaine en semaine, c'est, j'aime vraiment pas du tout. Bon voilà, Sami Zayn qui débarque après, et puis du coup bah le Baron qui termine en babyface puisqu'il met le End of Days aux deux, hein, Kevin Owens et Sami Zayn. Il vient sauver AJ Styles. Donc est-ce qu'on est là vraiment sur un face turn ou est-ce que la semaine prochaine on sera encore sur autre chose? J'ai bien l'impression qu'on va revenir au Baron Hill la semaine prochaine. Ça j'aime pas du tout. C'est vraiment encore une fois tout le booking, toute la scénarisation qui est pas bonne. Et puis bon, placer encore une fois le Baron dans le main event face à AJ Styles, c'est un match qu'on a déjà vu. Et puis le Baron faudrait quand même qu'il commence à se lever le cul pour nous sortir des matchs un peu plus spectaculaires que ce qui nous sort habituellement. Je pense qu'il fonctionnerait mieux en babyface. Maintenant. Pour l'instant, ils n'ont pas l'air de vouloir changer. Ils n'ont pas l'air d'ailleurs de vouloir faire des alignements en fait à SmackDown. donc du coup,
il y a beaucoup de choses qu'ils n'ont pas envie de faire.
Ouais,
j'ai l'impression.
On sent que. Ouais. Moi, j'ai déjà dit, mais je le redis, moi j'ai vraiment l'impression de regarder la TNA à la pire époque quand je vois le show, c'est-à-dire que...
Ah là, c'est le point Godwin, le point TNA.
Ah,
ouais.
C'est un show de catch, tu vois, t'as une émission de catch, mais pour les gens qui viennent regarder une fois de temps en temps, pas si t'es un bon suiveur, t'as pas de payoff, t'as des intrigues qui s'arrêtent au milieu, des gens qui changent d'alignement toutes les semaines, des trucs qui sont pas cohérents. C'est vraiment
la TNA, c'est ça la réponse.
Voilà. TNA.
Je suis. Impact.
Impact Wrestling. Donc voilà, bon, ça a pas l'air de gêner au niveau des audimates et des conneries comme ça, mais bon, c'est pas très agréable quand t'es un suiveur hebdomadaire de l'émission, quoi. Et bah, ça se ressent encore sur ce main event là qui est déjà vu réchauffé, pas très bien booké et bon qui se termine quand même sur un petit truc qui me donne un peu de suspense pour le pay-per-view, mais rien de bien folichon, quoi.
Bon, alors c'est l'heure du mot de la fin. On va sanctionner cet épisode et on va voir, vous allez partager votre top, votre flop, votre note. Ringside, tiens, tant que t'es chaud, est-ce que tu veux bien nous partager tout ça, s'il te plaît?
Alors, mon top, je vais le donner à AJ Styles, qui a quand même porté le show et porté le main event. Le flop, il y a beaucoup de candidats au flop. Je vais le donner au segment pour le titre US, qui était vraiment nul de bout en bout. Il y avait en plus, voilà, c'était mal écrit. Ils ont pas sauvé la performance, que ce soit Orton ou Rude ou Jinder Mahal. Donc c'est zéro pointé pour cette séquence-là. Et la note, ce qui m'ennuie, c'est qu'ils ont mis du beau catch, mais c'était quand même super nul de bout en bout. Donc je vais mettre un 1.
Un.
Il m'a piqué.
Ah ouais. Aïe, aïe, aïe.
Ah ouais, non, mais il faut commencer à être méchant maintenant avec SmackDown Live.
D'accord, oui. Voilà. Non, mais il faut qu'ils comprennent, effectivement. On est trop gentils, ouais, avec eux. Et du coup,
ça va remonter. Écoute, dans les bureaux.
Ça va. Ça... Ouais.
Voilà. Ah ouais. Non, on peut... Ouais. Ah là là, je suis un peu choqué, mais ok. Un. Bon, Giscal.
Ouais. Bon, moi, mon flop.
J'ai un peu peur du.
Ouais. Mon flop, j'en ai déjà parlé. Moi, c'était la promo entre Daniel Bryan et Shane McMahon, qui pour moi est un désaveu terrible. Alors, écoute, bon, je sais plus trop. C'était un des seuls trucs qui m'intéressait dans l'émission du mardi soir, et ils sont en train de s'aborder. Donc, c'est vrai que c'est un peu déprimant. Mon top, c'est le truc qui remplace cette histoire-là dans mon intérêt pour l'émission, c'est la petite promo backstage entre Sami Zayn et Kevin Owens, où ils se prennent dans les bras et le regard complètement incrédule là de Kevin Owens, qui se demande un peu s'il est en train de se faire mindfucker là ou pas. Je trouvais que c'était assez fun. Et puis bah après, ouais, bon bah il y a du bon catch, mais en fait. Je sais pas, je me rends compte qu'il y a peut-être un cinquième de l'émission qui m'intéresse quand je regarde le show. Donc si je prends une approche mathématique,
tu donnes un cinquième de notes.
Donc, si je donne un cinquième, bah ça fait 1/5. Donc
Oui, mais ça marche pas comme ça.
Ouais,
si.
Bah si, d'accord. Ça marche comme ça. Voilà.
Bah, surtout quand on voit à côté. Hein, Raw c'est super, NXT c'est super, Two Five Live c'est super, et t'as ce pauvre SmackDown Live là qui patauge en la semaine.
Mais on sait bien Ringside, on l'analyse toutes les semaines.
Merci,
on l'analyse toutes les semaines. On sait.
Ça va revenir.
Ah, c'est sûr qu'on est loin de l'époque dorée, hein, de SmackDown, les débuts, quoi, en fait, la période de gloire du supplément SmackDown. Et
surtout
nous.
Avec le roster qu'ils ont, il y a de quoi en faire des choses.
Mais oui, voilà, il faut se contenter de regarder les pay-per-view, quoi, à la limite, et puis.
Faut sanctionner, sanctionnons.
Ouais, -3 pour la.
Et du coup, donc c'est officiel, 1/5 jusqu'à.
Ouais, ouais. C'est ce que j'avais prévu de mettre. Ouais.
D'accord, ok. Voilà, le studio tremble, hein, à l'annonce de ces deux notes. Et ben moi, mon top, je le donne également à l'interaction Sami Zayn et Kevin Owens. Et pour mon flop, et ben je le donne à ce match là de First Contender pour la division tag team.
J'aurais pu faire ça aussi.
Avec les New Day qui sont qualifiés et les pauvres Chad Gable là et Shelton Benjamin qui sont un petit peu sacrifiés. C'est un petit peu dommage parce qu'on aurait pu très bien eux qui sont si over, les garder en First Contender et puis se faire choper une fois de plus le match par une intervention par exemple des Blue John Brothers, toi, qui viennent leur péter les genoux. Ça fait deux genoux de moins à péter par rapport
Oui,
au New Day.
voilà.
Et puis, voilà, quitte à en faire des mecs qui se font flouer du début à la fin, ils auraient pu faire ça. Ma note, bah, je vais être quand même moins sévère que vous. J'ai mis 2 sur 5, c'est pas non plus fantastique. Mais comme l'a dit Ringside, il y a quand même eu du bon catch et une séquence backstage sympa. Donc
Voilà.
ça m'a suffi. J'essaye de pas faire trop. C'est sûr, si tu divises par le temps d'antenne, enfin le bon moment que tu as passé, effectivement, la note serait pas très élevée. Le supplément SmackDown de Catch Up, vous pouvez évidemment nous retrouver hein, chaque semaine. Sur iTunes et PodCloud, également sur YouTube avec Catch Up CDC, le Twitter, le Facebook, c'est Catch Up CDC. N'hésitez pas à partager en commentaire de la vidéo
Est-ce que je peux
votre.
juste souligner la particulièrement la médiocre performance de Jinder Mahal encore une fois cette semaine, si
Non,
je peux me permettre.
Jinder a été excellent, il a sauvé le segment. Ouais, on en
Pas du
parlait.
tout. Puis il porte pas de
Non, mais
chaussettes, dégueulasse. Excuse-moi.
le pire, c'est que les. Non, mais tu as raison, il faut le dire. Le pire, c'est que la promo dégueulasse de Jinder Mahal n'était même pas la promo la plus dégueulasse, peut-être de cette rivalité.
C'est pas de
Donc,
sa faute,
voilà.
il a essayé d'exposer au grand jour Bobby Roode, le traître, et du
Le
coup, le menteur, le
tricheur.
tricheur, et ça n'a pas pris.
Bon, bah dites-nous
Faire.
justement dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé là de Jinder Mahal. Est-ce que Bobby Roode a vraiment voté pour lui? C'est ça qu'on est
Et
d'après
ouais,
vous.
c'est quand même intéressant de savoir, j'aimerais bien savoir.
Ah non,
Mais
parce que c'est
oui, parce que s'il a
interdit. On
vraiment.
n'aurait pas pu valider
Oui, mais
son vote.
interdit. Interdit, il y a interdit, il y a interdit. Est-ce que c'est interdit, mais tu peux le faire quand même? Genre, t'as le droit, tu peux, je sais
Ouais, c'est
pas,
souvent
dépasser
comme
la
ça.
limitation de vitesse? Ou voler, c'est
Mais alors à
interdit,
ce
mais tu peux
moment-là,
voler quand
j'attends
même.
une sanction terrible pour Bobby Roode. J'espère qu'il va être démis de son titre et que du coup, Jinder Mahal va pouvoir affronter Randy Orton pour.
Bah, tu sais, hein, vu le gimmick qu'ils lui ont refilé, il est déjà un peu puni, Bobby Roode, hein, depuis qu'il est arrivé. Donc, je sais pas si c'est bien de s'acharner comme ça sur un cadavre. Donc, ouais, partagez, hein, notez, dites-nous ce que vous avez pensé, votre top, votre flop dans les commentaires. On salue tout le monde, hein, sur le chat. Maxence,
Galouf,
Galouf,
Galouf.
Terence, le fameux Terence, hein, qui est là,
Ouais.
Maxence et tous les autres. Encore merci de nous suivre plus nombreux chaque jour. On vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine de catch. Mais avant ça, je vous précise qu'il y aura le programme de ce week-end. C'est
Eh oui,
important.
il se passe des choses.
Il y aura le pré-show dimanche soir, probablement à 20h, quelque chose comme ça. Suivez le compte Twitter pour savoir. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube pour être prévenu. Probablement un NXT tout seul qui devrait tomber d'ici là. Et voilà, donc pour le pré-show, n'hésitez pas à venir. On parlera ensemble de la carte d'Elimination Chamber. Encore merci, Giscal.
Bah écoute, merci à vous de m'avoir accueilli au supplément SmackDown, hein, parce que je sais que maintenant, compliqué de se faire.
T'as vu, on n'a pas changé le code, hein, pour que tu puisses entrer dans le
Ouais, ça fait
studio.
plaisir, le double des clés que j'ai fonctionne toujours.
Ouais, mais bon, si on a voté et t'as eu la majorité d'une courte tête pour que on ne change pas le code. D'ailleurs, en parlant de ça, donc Ringside, merci à toi.
Mais je t'en prie, merci de m'accueillir. Je pense que tu changeras le
C'est
code pour
toujours.
la semaine prochaine.
Je pense que je vais changer le code et je le donnerai à personne. Non, c'est déjà assez triste comme ça de regarder SmackDown. Alors, si en plus on le fait tout seul, je pense que là, il y a juste de quoi être dépressif. Allez, bonne semaine de catch à toutes et à tous. Salut!
Ciao.
Ciao!
Voilà. Ah
Yeah!
bah t'es pas le seul à être allé chez le
Super!
coiffeur.
Voilà!
Ouais. Ouais, dis
Putain!
donc, ringside, c'est incroyable.
Ouais,
Hein?
bon, ok,
Et
j'ai compris le message, les gars, s'il vous plaît. Mais bon, c'était pas la peine de vous liguer contre moi.